Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Salut, c'est Thomas Rozek. Comme j'ai pas mal pris le train dans ma vie pour rejoindre ma lointaine Bretagne, je me suis plus d'une fois retrouvé planté dans un kiosque à journaux foisonnant de couvertures colorées, complètement paumé face à des dizaines de titres qui se ressemblent tous les uns les autres, incapable d'en choisir un pour mes 4 ou 5 heures de train. Alors certes, avec l'explosion de la presse en ligne et la multiplication des équipements, on a de moins en moins l'occasion de feuilleter au hasard de nouveaux magazines. Mais si d'aventure on s'y colle, prudence. On pourrait bien se retrouver avec du contenu qu'on qualifiera pudiquement de basse qualité, voire carrément face à des articles volé sur le web et copié sans aucune vergogne par des éditeurs peu scrupuleux. Ce système rodé, qui profite au passage de la fragilité des kiosquiers et de lois un poil anachroniques, il est au cœur d'une enquête qu'un confrère vient de signer sur YouTube et que nous avions envie de vous faire partager. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Ce confrère donc, c'est le youtubeur Sylvain. Attention, ça s'écrit S-Y-L-V-Q-I-N. Il publie depuis un petit moment déjà des vidéos extrêmement bien foutues et il s'est lancé récemment dans des enquêtes très fouillées, dont celle qui nous intéresse, baptisée le plagiat imprimé en magazine. Il se penche de près sur un éditeur très particulier, Lafond Presse, et son patron, Robert Lafond, avec un seul F, c'est important parce qu'il ne faut pas le confondre avec son homonyme, l'éditeur de livres Robert Lafond, et on y reviendra d'ailleurs. Lafond Presse est spécialiste toute catégorie de l'arrosage de kiosques avec des dizaines de titre au contenu parfois questionnable, spécialiste aussi de la publication en fonction d'où souffle le vent, comme par exemple l'incroyable journal des Gilets jaunes sorti dès la fin du mois de janvier. Alors on pourrait applaudir l'ingéniosité, la vivacité de cette entreprise par ailleurs plutôt florissante dans un secteur qui lui est en crise, mais ce serait occulter la réalité de ses recettes de fabrication. Et là je passe la parole à Sylvain, donc, qui est venu faire un tour dans nos studios et à qui j'ai tout d'abord demandé comment avait démarré cette enquête.
C'est quelqu'un que je ne connaissais pas, qui me suivait depuis quelques temps et qui m'a dit « Tiens, c'est marrant, je bosse dans la presse aussi, la presse en ligne, et aussi presse papier. » Et il s'avère que nos articles se retrouvent dans d'autres magazines qui ne sont pas du tout à nous et dont on n'a jamais donné l'autorisation. C'était sur l'automobile, là, pour le coup, mais ce n'était pas le seul sujet. Et il me dit « Tiens, il y a peut-être un truc à creuser. » Effectivement, je commence à regarder et puis on achète des magazines, on les feuillette, on essaie de trouver...
Oui, c'est ça, t'as acheté toute une pile de magazines édités par Robert Lafond.
Exactement, par Lafond Presse. Et c'est vrai que du coup, j'ai découvert un peu l'entreprise qui existe depuis plus de 30 ans, lancée avec le magazine Entreprendre, qui pour le coup est une création originale et un peu le fer de lance de la marque. Et effectivement, tu as une catégorie qui est de magazine premium, où là, il n'y a pas vraiment de problème, il y a des rédacteurs, etc. Ils ont une grosse partie sur le sport aussi qui fait ça. Et une autre partie un peu moins qualitative.
Oui, parce qu'ils éditent énormément de magazines.
Voilà, c'est une société qui édite énormément de magazines. Et là, on l'a vu très récemment avec le magazine, justement, je crois, le journal des Gilets jaunes, si je ne dis pas de bêtises, qui arbore un jaune fluo absolument fameux. Et qui, c'est un petit peu érigé en premier magazine... Gilets jaunes, sachant que ce sont des rédacteurs, je ne sais pas s'ils ont vraiment les revendications Gilets jaunes derrière, mais en tout cas c'est vrai qu'il y avait quand même quelques similitudes dans les articles avec des choses déjà publiées encore une fois, même si c'était plus réécrit cette fois-ci.
Ouais. Il y a un élément qui tout de suite t'a alerté, tu en parles dans la vidéo, c'est que contrairement à des grands groupes de presse qui éditent eux aussi énormément de magazines, l'équipe de Lafond Presse est minuscule.
Ouais, en fait, en termes de société, c'est une vingtaine de personnes. Ouais. Et ensuite, ils font énormément appel à des rédactions déléguées. Donc, c'est un système qui fonctionne pour certaines boîtes, qui peut fonctionner là aussi. Là, le problème, effectivement, c'est quand on a du plagiat, il y a des questions à se poser sur ce fonctionnement et se demander si les gens en externe ne font pas n'importe quoi. Ouais. Et c'est un peu ce que Robert Lafond disait, il rejetait plus la faute sur eux. C'est eux qui ont copié, j'ai pas vérifié, c'est un peu ma faute, mais c'est quand même plus la leur.
Il y a dans le cours de l'enquête, tu tombes notamment sur une société, on va dire, une rédaction déléguée qui est un peu centrale dans ces histoires de plagiat, qui est celle de Maxime Hübner. Maxime avec un Y. C'est
tout
assez
à fait.
C'est assez important c'est pour la suite.
C'est assez important, effectivement, parce qu'on se rend compte qu'il y a un autre Maxime avec un Y qui ressort et on fait vite le lien. Enfin, sauf si vous connaissez beaucoup de Maxime avec un Y.
Oui, Maxime Darcy.
Exactement, Maxime Darcy.
Qui est un des journalistes officiellement de ces magazines.
C'est ça,
du plagiat.
On a donc une rédaction avec Max Darcy, Maxime Darcy. Les pseudos varient un peu, mais globalement, ça reste là-dedans. Maxime Hübner, et puis on se dit finalement, Maxime Hübner et Maxime Darcy, ça a l'air d'être les mêmes personnes, quand même, globalement. Et on trouve assez vite, en continuant de creuser, que ce soit sur des registres de société ou des choses comme ça, le nom de Didier Hübner qui ressort. Et notamment d'ailleurs des gens qui, depuis quelques années, enfin ça fait 10 ans en fait que ces pratiques sont en place. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui ont déjà communiqué sur ce fait de se dire, peut-être, en fait, c'est très spécialisé. C'est-à-dire qu'il y a par exemple un forum de train qui va dire, j'ai acheté Train Magazine numéro 4, c'est sympa, mais les articles ils sont copiés-collés, c'est un peu le bordel. Et puis là, les gens commencent à râler, disent, mais c'est Maxime Hübner / Didier Hübner. Qui a l'habitude, et on retrouve dans plein de forums spécialisés ce genre de témoignages qui aident beaucoup justement à faire avancer et à découvrir qu'il y a Didier Hübner derrière, Maxime Darcy, on ne sait pas vraiment s'il existe, en tout cas j'ai pas vraiment de traces de lui, et voilà, on se rend compte que c'est cette personne surtout qui gère le plagiat, plutôt en famille, puisque effectivement...
Il y a d'autres Hübner qui sont associés, notamment une maquettiste qui potentiellement serait sa fille.
Ouais, sa fille, voilà, enfin, c'est de la famille globalement, ou alors des gens qui se connaissent je pense depuis quelques années. Un peu de copinage, mais bon, comme partout. Et effectivement, c'est une personne insaisissable, Maxime Hübner.
Tu as tenté de le contacter ?
J'ai tenté de le contacter par téléphone, par mail, sur plusieurs numéros et adresses mail différents. Et suite à la rencontre avec Robert Laffont, je lui ai demandé, est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec Didier Hübner ? Il m'a dit, oui, bien sûr, c'est pas moi qui lui dis de pas vous répondre. Mais j'ai jamais eu de nouvelles depuis, et je savais que c'était un personnage insaisissable. Donc là, c'est soit... on laisse l'impasse et le doute, soit on y va un peu en mode bourrin devant chez lui. Et bon, je me suis dit que j'avais envie de faire bien les choses quand même.
Il y a notamment eu plusieurs enquêtes par le passé sur ses pratiques. Il n'a jamais répondu, à part une fois, je crois.
Alors, il en a parlé... en fait, il y a eu plusieurs choses qui sont sorties sur Robert Laffont. Il y a eu un article du Monde, il y a quelques années, qui le qualifie clairement dès le titre d'éditeur version copier-coller. Ce témoignage, c'est plus une interview d'ailleurs de portrait de Robert Laffont, qui parle effectivement de sa réussite, de comment fonctionne la boîte, et qui évoque le plagiat, mais à très petite dose, et qui explique plus le fonctionnement qui est, on va lancer des magazines très vite et très simplement sur les sujets qui fonctionnent, et s'ils ne fonctionnent pas au bout de quelques numéros, on va les arrêter.
On les arrête, ouais.
C'est-à-dire qu'ils ont une mobilité quand même, ils sont très très souples sur le lancement des nouveaux magazines, d'où le journal des Gilets jaunes qui arrivait...
quelques semaines après le début du mouvement. Ouais.
Voilà, donc ça allait très très vite. Et effectivement, il n'aborde pas trop le sujet du plagiat. Il l'évoque parce qu'il y a des histoires qui ont déjà circulé, notamment sur l'Obs, qui avait fait un article justement sur à charge contre eux, des pans entiers de Wikipédia copiés dans un magazine d'histoire, un magazine hors série. Et effectivement, c'est évoqué, ça se sait, ça s'entend, mais ça reste assez léger. C'est pour ça que je voulais... essayer de démêler vraiment plus le sujet du plagiat sur cette société. Et surtout que dans les articles plagiés, on a aussi bien des articles de game cult, de sites très généralistes ou très précis par rapport à leur spécificité. Mais on a aussi des petits sites indépendants et j'en ai contacté un site canadien qui s'appelle jeu.ca et qui pour le coup, eux, ils se disent on essaie de faire de notre mieux, mais si en plus on se fait plagier, on est à l'autre bout du monde, qu'est-ce que vous voulez faire ?
Oui. Oui, il y a une forme d'impunité quelque part derrière tout ça. Justement, donc, si Hübner n'a pas répondu, Robert Laffont, lui, par contre, a accepté de te rencontrer. D'ailleurs, on le voit dans la vidéo, il est interviewé. Ça a été simple de le contacter, de l'amener sur ce terrain du plagiat qui est quand même assez polémique.
Alors, au début, je me suis dit, si tu veux bien faire les choses, on m'a toujours dit, laisse un droit de réponse aux gens. Et je trouve ça intéressant aussi. Mais je ne m'attendais pas forcément à avoir une rencontre avec Robert Laffont. Donc j'ai envoyé un mail à Robert Laffont et Maxime Hübner, Didier Hübner. Et les deux ne m'ont pas répondu, j'ai relancé. Et Robert Laffont m'a dit, très bien, semaine prochaine, quand vous voulez. Sachant que les deux avaient la liste de questions. Qu'ils savaient que ça allait traiter de plagiat, de choses pas très marrantes pour eux. Il y avait rien de caché à ce niveau-là. Et Robert Laffont a plutôt joué le jeu, vu qu'on est resté presque une heure dans ses bureaux. Et c'est vrai que c'est un personnage pour le coup, Robert Laffont, c'est quelqu'un assez innocent et gentil, et en même temps assez businessman avec quand même quelques ambitions derrière. Donc un personnage un peu compliqué parce qu'on n'arrive pas à savoir s'il va dans notre sens par complaisance, s'il ment un peu pour sauver ses affaires, je ne sais pas. C'est dur de démêler ce genre de personnage quand on n'a pas l'habitude de le rencontrer.
Oui, parce qu'il admet totalement qu'il y a eu des problèmes de plagiat, il s'en cache pas du tout.
Il le dit, voilà, on a eu des problèmes avec une rédaction déléguée particulièrement. Alors il n'y en a pas qu'une, il y en a une qui est vraiment majoritaire sur 90% des cas de ces magazines, c'est du plagiat. Mais sur le reste, effectivement, il y a quelques traces, par-ci par-là. Donc ça, il l'admet, il dit voilà, on a travaillé avec des gens à qui on a fait confiance, ça s'est mal passé. Le problème, c'est que ça fait plus de 10 ans que ça... Oui. Que ça se passe, mais bon, c'est un peu, une fois pris la main dans le sac, publiquement, on en parle un peu plus. Mais effectivement, il met beaucoup l'accent sur la réussite entrepreneuriale de la Fonds Presse, le fait qu'il n'ait pas d'aide à la presse, comparé à d'autres groupes, effectivement, comme Libération ou plein de journaux qui reçoivent des millions par an pour exister, eux, ils sont indépendants. Et puis, au fil de l'enquête, c'est vrai que ça a évolué et j'en suis arrivé un peu à parler de la stratégie d'occupation des kiosques qu'ils font. Pour expliquer rapidement, la technique de la Fonds Presse qui avait déjà été évoquée par Le Monde à l'époque dans son article, c'était justement de pouvoir lancer énormément de magazines assez vite. Donc vraiment l'exemple concret qu'il y avait dans l'article du Monde, c'était l'aviation cartonne, et ben on va lancer 4 magazines d'aviation, pareil pour la philosophie, etc. Et puis on va voir lesquels fonctionnent le mieux, et puis on va tuer les autres pour pas faire trop de parasitisme. Et souvent d'ailleurs, comme ce sont des magazines lancés assez rapidement en simultané ou pas loin, sur quelques mois, on a des similitudes bien sûr des articles qui se retrouvent les uns dans les autres.
C'est plus ou moins les mêmes magazines, voilà, avec un package légèrement différent.
Exactement, oui, c'est un peu emballé différemment pour essayer de toucher notre cible. Et ce qui ferait un bon bêta testing, mais,
oui.
Mais bon, c'est quand même discutable. Et effectivement, en général, avec des articles rédigés un peu rapidement et avec potentiellement du plagiat. Ouais.
Et du coup, c'est quoi l'intérêt de cette stratégie, économiquement parlant, d'occupation des kiosques ?
Il y a plusieurs trucs intéressants à voir là-dessus. C'est que d'abord, on a la loi Bichet, donc, qui existe depuis post-Seconde Guerre mondiale, qui est une loi qui permet en fait, à n'importe qui de pouvoir diffuser un magazine chez les marchands de presse.
Petite parenthèse au sujet de cette loi Bichet. Elle date de 1947. Elle a été pensée à l'époque pour assurer le pluralisme de la presse, pour permettre à n'importe quel éditeur, quelle que soit sa taille et son orientation politique surtout, d'accéder à la même diffusion que les autres en passant par les coopératives que sont Presstalis et les MLP, les messageries lyonnaises de presse. Sauf que le dispositif légal est devenu obsolète, d'une part parce qu'il était pensé pour les journaux et pas pour les magazines, et d'autre part parce qu'il favorise des pratiques commerciales un peu douteuses, notamment le fait d'inonder les kiosques sous les titres en misant entre autres sur le non-renvoi des invendus. Parce que si les vendeurs de journaux ne renvoient pas les exemplaires qu'ils reçoivent au bout d'un mois et 5 jours, ils ne sont pas remboursés alors que l'éditeur, lui, est payé. Une réforme de la loi est envisagée depuis des années. Le gouvernement actuel planche d'ailleurs dessus depuis cet été, sans succès pour l'instant.
Donc, on se retrouve avec des marchands de journaux qui reçoivent très 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 régulièrement, voire presque tous les jours, des numéros 1 qui ne va pas forcément les intéresser. C'est-à-dire que bon, ça peut être très très précis, hein, des magazines. Si vous voulez faire un magazine sur vous pouvez, en soi, j'imagine. Mais c'est vrai que le problème, c'est que le fonctionnement des marchands de journaux, qui ferment de plus en plus chaque année...
Oui, on est, qui sont soumis à une pression très très forte, économiquement parlant.
Bien sûr, on en parlera après, parce qu'il y a d'autres choses qui les minent un petit peu. Mais là, pour le coup, les marchands de journaux, soit ils avancent l'argent pour payer les magazines, et dans ce cas-là, s'ils sont vendus ensuite, ils ont leur marge. Oui. Soit ils les stockent pendant un mois, et puis redonne les invendus. Le problème, c'est quand on a énormément de magazines qui sont envoyés chez les marchands de journaux, vous vous rendez bien compte, là ça va être assez parisiano-centré, mais dans les kiosques, par exemple, à Paris, on a 6 mètres carrés grand maximum, avec des milliers de magazines qui s'entassent, une ou deux personnes à gérer, c'est vrai que les magazines, ils glissent derrière une étagère, on les oublie et on perd de l'argent. Et c'est, mine de rien, assez répandu. J'ai pas forcément les chiffres, mais ça ressort assez souvent, ce point-là. Et c'est vrai qu'ils en ont juste marre de recevoir des magazines qui ne se vendent pas forcément. Et effectivement, quand on est retaxé sur les trucs qu'on n'a pas vendus et qu'on n'a pas renvoyés, c'est un problème. Et puis les marchands de journaux, effectivement, là, ils ont des revendications face à la loi Bichet. C'est en train d'essayer d'avancer, mais ça fait des années que ça traîne un peu dans la... que ça traîne. Et pour le coup, ils ont aussi peur de l'arrivée des grandes surfaces qui devraient de plus en plus ouvrir peut-être des points de vente. Ils ont peur des relais qui ont la main mise sur les gares, mais ça, c'est une sorte de mafia un peu différente où là, il faut peut-être plutôt payer. J'ai entendu parler de fait qu'il fallait payer pour être exposé et qu'il y avait des abonnements, puisque c'est des lieux de très grand passage. Oui. Donc les marchands de journaux, c'est un peu les premiers à trinquer de tout ça, parce qu'en soi, le plagiat, effectivement, c'est un problème. Mais le problème, je pense qu'il est plus large et qu'il est sur la situation entre les marchands de journaux qui essaient de survivre, et surtout, par exemple, en province, c'est vrai que c'est de plus en plus dur de survivre en tant que marchand de journaux. Il y en a de plus en plus qui ferment, je crois qu'il y en a à peu près 1000 par an qui ferment, ce qui est énorme sur 25 000 de souvenirs.
Oui, en pourcentage, c'est beaucoup.
Ouais, c'est colossal. Donc il n'y a pas vraiment de solution directement à partir de cette enquête, mais c'est pour dire en tout cas, est-ce que Robert Laffont profite éventuellement de ses rouages pour faire traîner tout ça? Il y avait un autre point que je n'ai pas forcément évoqué dans la vidéo, mais c'est qu'effectivement, ils essayent, apparemment, il y aurait une histoire de trésorerie un peu roulante qui, en gros, une fois que le magazine est sorti, l'argent des kiosquiers donc est emmagasiné, ça leur permet de lancer des nouveaux magazines et d'avoir un roulement de trésorerie comme ça. Mais je n'ai pas toutes les précisions là-dessus, mais il y a quelques astuces apparemment qui fonctionnent.
Qui explique aussi la grosse réussite économique de la Fondpresse, qui est un groupe qui génère beaucoup d'argent.
Effectivement, la Fondpresse, c'est une boîte cotée en bourse à Euronext, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, ils sont cotés à 20 millions d'euros. C'est quand même plutôt pas mal pour une boîte de journalisme indépendant.
Surtout dans la presse.
Et puis vu qu'on a pas, on parle de chiffres, c'est vrai qu'on l'a pas évoqué, mais la Fondpresse, là, c'est 80 magazines actuellement diffusés, donc en mensuel ou autre. Et en 30 ans, ils ont sorti plus de 10 000 titres différents. Donc ça fait quand même énormément de magazines.
Quelles ont été les réactions après la publication de ton enquête, la mise en ligne de ton enquête sur ces pratiques?
Alors, je n'ai pas eu de nouvelles de la Fondpresse ni de Robert Laffont, mais effectivement, les gens ne se rendaient pas du tout compte, et moi non plus le premier, de ce qui se passe dans le milieu de la presse. Et effectivement, le plagiat, moi, c'est un sujet qui me parle sur Internet, parce que j'ai beaucoup travaillé sur Internet. Mais quand c'est dans la presse, quand c'est imprimé, quand c'est vendu, c'est beaucoup plus concret. Et surtout, c'est plus difficile de le retrouver, parce qu'on n'a pas juste...
C'est plus dur à tracer, parce que techniquement, pour revenir sur ton enquête, toi, tu as tapé des phrases tirées des magazines sur Google pour essayer de retrouver des occurrences similaires.
Exactement. Et souvent, on pouvait juste coller l'article presque entier et avoir la source de base. Donc c'est vrai que c'est un travail un peu plus fastidieux de recherche et surtout quand on doit le faire sur plusieurs échantillons, etc. Alors tout n'est pas plagié évidemment, hein, mais il y a quand même
une forte part de plagiat.
Ouais. Exactement, sur les magazines low cost de la Fondpresse.
Est-ce qu'ils ont eu des problèmes juridiques à cause de ces histoires de plagiat? Est-ce que c'est allé jusqu'aux tribunaux?
Alors, Robert Laffont, je lui ai posé la question. Ouais. Effectivement, il l'évoque à demi-mot et ils ont des soucis par-ci par-là avec quelques boîtes où... J'ai pas malheureusement l'information, mais je sais qu'ils ont quelques lettres d'avocats qui traînent sur le bureau et qui doivent régler, si possible à l'amiable, j'imagine, vu le talent de négociation de Robert.
Est-ce qu'il y a d'autres exemples dans la presse comme ça est-ce que dans le cadre de ton enquête, tu t'y es intéressé, d'autres exemples de groupes qui fonctionnent un peu comme ça, par parasitisme ou par occupation, on va dire, du terrain des kiosques?
Alors, il y a... Je ne connais pas du tout l'histoire, mais je sais que Trukolovski, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est pour le coup plus dans le paparazzi et dans la presse people, a beaucoup de casseroles à son actif aussi. Je ne connais pas vraiment le sujet et c'est vraiment les noms qui ressortaient assez souvent. Enfin, le nom qui ressortait assez souvent quand je parlais de la Fondpresse, parce que j'en ai parlé à des marchands de journaux directement, des gens assez impliqués dans la cause des marchands de journaux, et c'est vrai que son nom ressortait assez souvent. Mais c'est vrai que j'ai pas cherché beaucoup plus loin, je me suis un peu concentré sur la Fondpresse, parce que finalement le sujet était assez large et assez dense pour évoquer tout ça, et puis avec l'interview, c'est vrai que ça nous faisait déjà un contenu assez dense, et surtout j'avais un peu peur que ça perde un peu les gens, parce que je suis quand même tranquille sur YouTube, et là c'était 25 minutes de contenu sur, pas forcément Internet, mais plus une arnaque qui va un peu plus loin, qui concerne le travail des gens, les marchands de journaux. Et ça a été bien reçu, je suis assez content du coup d'avoir sorti tout ça aussi.
Il y a un élément qui est troublant qu'on n'a pas évoqué, c'est le simple nom de Robert Laffont, qui peut tout de suite prêter à confusion, parce qu'il y a un autre Robert Laffont qui est très connu.
Effectivement, Robert Laffont a le même nom que l'autre Robert Laffont avec deux F, qui lui, pour le coup, est une boîte d'édition de livres qualitatifs. Et Robert Laffont avec un F, donc notre cas, a essayé de déposer Robert Laffont Presse.
Qui prêtait encore plus à confusion qu'avec Robert Laffont Édition.
Exactement. Et donc, du coup, ils ont perdu le procès. Et c'est vrai qu'ils le disaient un petit peu dans l'article du Monde. C'est quand même fou, j'ai pas le droit d'utiliser mon propre nom en rigolant. Bon, effectivement, c'est mal tombé pour lui, mais je pense que ça l'amusait aussi de peut-être tenter la chose.
Si vous voulez en savoir plus et visionner notamment l'étonnante interview de Robert Laffont, avec un seul F, par Sylvain, ça se passe sur sa page YouTube. On vous met tous les liens qu'il faut sur binge.audio. Merci à Sylvain pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess et réalisé par Vincent Hiver. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller. Programme B à binge.audio pour nous écrire. Et à demain pour un nouvel épisode.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.